Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François.
Bonjour Bruno.
Cette semaine, Jean-François, tu parles de prototypage rapide avec ton invité.
Oui, puis c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est quelque chose dans qu'on essaie, on essaie de se rapprocher de ça en UX parce qu'on veut prouver rapidement que quelque chose fonctionne ou pas. Puis on se demande tout le temps un peu jusqu'où on peut aller. Il y a des logiciels, tu sais, il y a des Protopie, je pense que ça s'appelle, qui te permet de faire du prototype quasiment fini. On parle de no-code aussi. Si on peut, jusqu'où on doit pousser pour prouver que la chose va fonctionner avec les gens qui vont l'utiliser? On peut-tu le tester pour le test avec un niveau de réalisme qui est à quel niveau à un moment donné, tu sais?
Jusqu'où on va?
Exact. Puis chez Intact, je trouve qu'ils ont eu beaucoup de courage en se donnant la permission de se tromper aussi parce que la personne avec qui je parle aujourd'hui, Léa Bélanger, qui est chez Intact, est en charge d'un petit département de prototypage rapide. 6 personnes, dont des développeurs. Et ça, c'est un changement parce que là, ça veut dire qu'on doit avoir des développeurs qui acceptent de se tromper. C'est des perfectionnistes, nos amis, les développeurs. Donc, de dire, on va développer quelque chose rapidement, puis ça se peut qu'on le mette de côté parce que ça ne fonctionnera pas. Et on va faire des petits compromis aussi, mais pas trop, parce qu'on ne peut pas mettre en péril la sécurité. C'est du prototypage rapide qui va en ligne, qui est testé dans les choses que Intact met en place normalement. Donc, j'ai trouvé l'entrevue super intéressante parce que dans un monde numérique au Québec où des fois on pense à des projets pharaoniques qui durent 1 an ou 2, là, on se permet de faire des choses en 3 mois. Il faut laisser beaucoup de choses sur le côté de la piste là, pour se dire on va arriver en bout de projet puis on va le tester.
En tout cas, ça va faire réfléchir des gens.
Jean-François,
merci pour cette rencontre. On va aller écouter tes propos avec ceux de Léa Bélanger. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
À la semaine prochaine. Salut.
Qu'est-ce qu'on fait chez Intact en prototypage rapide? En fait, moi, j'ai la grande chance et l'honneur d'être la directrice de cette merveilleuse équipe qui est composée de développeurs, d'experts en design et en analyse d'affaires. Et notre mandat, c'est tout simple, en fait, c'est d'informer les feuilles de route numériques des différentes équipes du Intact Lab. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le Intact Lab est responsable de créer l'application mobile, de créer le centre client, de créer aussi tous les outils pour permettre la vente d'assurance en ligne. Et évidemment, tous ces gens-là, super créatifs, super débrouillards qui s'occupent de monter ces produits-là, ils ont souvent des idées qui sont très créatives, mais parfois un petit peu risquées, un peu incertaines. On n'est pas certain que ça va générer un retour sur l'investissement si on investit de l'effort là-dedans. Et c'est là que mon équipe vient en jeu. Donc, nous, on a la responsabilité de monter des prototypes fonctionnels pour pouvoir les tester avec des utilisateurs. Des fois, on se rend même jusqu'à faire des pilotes ou des tests A/B en production pour avoir le vrai feedback là, de vrais clients. Et donc, c'est comme ça qu'on est capable de récolter des données et de faire une recommandation à savoir est-ce que ça vaut la peine ou non de développer cette fonctionnalité-là, ce nouveau produit-là dans le futur.
Mais vous allez donc assez loin, beaucoup plus loin que de faire un prototype sur Figma ou dans un faux prototype, on s'entend. Mais là, vous allez, toi, dans ton équipe, tu as des programmeurs, tu as des devs qui aident à monter quelque chose qui est vrai, dans le fond. Là.
Oui, exactement. Donc, c'est vraiment avec ces prototypes fonctionnels-là qui sont développés, qui sont vraiment 100% fonctionnels. Il faut quand même noter que dans le but d'aller vite, des fois, on prend des petits raccourcis. Donc, c'est pas tout qui est monté parfaitement en arrière, mais quand même, tu sais, on s'assure que, surtout quand on s'intègre dans un vrai produit, tu sais, que la qualité est là, que tous les niveaux de sécurité sont là aussi pour offrir une expérience stable, sécuritaire aux usagers là, de ces prototypes-là.
Mais ça va en ligne, donc vous testez, c'est plus que juste tester avec, vous l'envoyez là, littéralement dans le monde avec un groupe déterminé d'utilisateurs qui sont vos clients pour, c'est pas le truc final qu'on pourrait voir dans un projet, mais qui prend aussi beaucoup de temps normalement dans une grande organisation. Là, un de vos objectifs, c'est sûrement de le faire assez rapidement aussi. C'est quoi à peu près un délai d'un projet de ce genre-là? Qu'est-ce qui est acceptable en fait?
Ben, en fait, ça dépend vraiment du prototype. Puis ça, je pense que c'est un des grands apprentissages qu'on a fait dans la dernière année. Chaque projet est différent. Tu sais, en fait, nous, on répond à des questions de recherche en montant ces prototypes-là. Donc, des fois, ben, c'est plus au niveau de la faisabilité qu'on se pose des questions. Donc, à ce moment-là, on peut se limiter à une preuve de concept. Ça peut être plus rapide. Tu sais, on parle d'à peu près un mois, pour donner un exemple, un ordre de grandeur.
Quand même, c'est programmé, connecté sur des bases de données. Ouais. Quand même, c'est un mois, mais c'est super rapide, là.
Ouais. Puis après ça, mais parfois, on se pose aussi des questions plus de viabilité ou de désirabilité. C'est à ce moment-là qu'on va amener des fois le prototype un peu plus loin. On va prendre plus de temps pour le bâtir, comme je disais, avec nos standards de qualité normaux, là. puis ce qui va nous permettre de l'intégrer à des produits ou de le lancer en production.
Et ça prend des humains, je te dirais, ben, j'ai l'impression, en tout cas des développeurs, des UX qui sont prêts à certains compromis, si on veut, pour réussir à produire des choses rapidement. Parce qu'un dev, moi, tel que je les connais, c'est des perfectionnistes. Ils veulent faire bien les choses. Là, on leur demande de couper des coins ronds un peu pour arriver à sortir quelque chose rapidement, non?
Oui, mais tu as parfaitement raison, Jean-François. C'est vraiment une mentalité, le prototypage rapide. Il faut être prêt à faire des compromis. Ça demande un effort de priorisation extrêmement important pour décider en équipe, OK, mais qu'est-ce qui va rapporter le plus d'impact versus l'effort dans les fonctionnalités du prototype, dans la façon dont on bâtit le prototype. Fait que on est toujours sur la ligne du compromis. On est toujours en train de se demander comment maximiser l'impact, comment aller chercher le plus de données possible avec ce prototype-là versus l'effort de développement, l'effort de design aussi, l'effort, évidemment, il y a toute la portion analyse d'affaires. Il faut aller comprendre des fois comment offrir un service ou bâtir un service ou des outils pour les clients. Donc, on est toujours en train de repositionner. On revoit souvent le scope en cours de route pour s'assurer qu'on développe le meilleur prototype là, pour répondre aux questions de recherche.
Et est-ce qu'au niveau de l'organisation, ils se sont dit, c'est une expérimentation qu'on fait avec un département de prototypage rapide. On va mettre des indicateurs de rendement, j'imagine. On va le mesurer, voir si ça vaut la peine de le faire. Ça a été fait, ça? C'est en train d'être fait, peut-être parce que c'est en fait la première année là, que Intact a consacré à ça, là.
Oui. Il y a vraiment un grand désir, là, évidemment, qu'au lab, tu sais, qu'on ait une culture d'innovation qui concerne toutes les équipes. Nous, on est une partie de cette culture-là. Tu sais, on peut enabler, justement, répondre à des questions spécifiques de recherche. Fait que ce désir-là, je pense, de notre leadership, tu sais, se traduit dans nous faire confiance, mettre en place cette équipe-là. Jusqu'à présent, ben, on a quand même réussi à livrer des beaux projets, des résultats dans la dernière année. Donc, on continue.
Ça se mesure au résultat parce que parfois, les organisations se disent, on fait de la recherche. Mais la recherche, c'est un peu, parfois, peut-être abstrait pour certains gestionnaires. Là, vous faites des choses concrètes, mesurables, utilisé par des clients qui potentiellement se disent, mon Dieu, ils sont dynamiques chez Intact, là. Ils font des choses qui bougent et qu'on peut essayer.
Oui, exactement. Puis, tu sais, ultimement, comme je le disais tout à l'heure, tu sais, on informe les roadmaps, on informe quelles vont être les initiatives du futur. Fait qu'on dérisque aussi le travail des équipes produits dans les prochaines années. Donc, la valeur est vraiment là puis est reconnue.
Oui, parce que ce que vous développez en prototypage rapide va être refait potentiellement de façon plus longue après. Donc, le risque est enlevé puisqu'on l'a essayé, on l'a testé. C'était pas beau peut-être, mais c'est quelque chose qui peut être intégré dans le roadmap de l'entreprise.
Oui, exactement. Puis, tu sais, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, chaque projet a une approche différente, chaque projet répond à des questions différentes. Tu sais, évidemment, c'est comme le cas de figure principal, c'est de se dire, OK, on fait un prototype, on le met entre les mains de vrais clients, puis là, on mesure, OK, c'est quoi le taux d'adoption, c'est quoi les chiffres autour de l'usage, quand on envoie des notifications, c'est quoi le lift réel de ces notifications-là. Mais tu sais, il y a aussi des projets où c'est hey, on aimerait ça, tu sais, offrir un outil qui guide davantage le client. Puis des fois, ben l'impact qu'on a, c'est plus aller défricher avec d'autres équipes, par exemple avec les équipes de souscription, avec les équipes légales, qu'est-ce que ça aurait comme implication si on offrait ce genre de service-là. Fait que ce genre de projet-là, des fois, ne se soldera pas dans un pilote, mais après, on peut arriver avec des recommandations ou justement des apprentissages sur qui vont être ou les bloquants potentiels si on veut mettre en place ce genre d'outils-là.
C'est génial. Et là, confirme-moi que ça se passe bien parce qu'il y a tellement d'organisations qui ont peur de déranger leurs utilisateurs, de mélanger leurs utilisateurs. Vous allez les voir et vous leur proposez des choses que vous dites, c'est un prototype pour améliorer tout ce qu'on peut vous offrir comme service. Puis, il y a personne qui est jamais revenu en disant, mais moi, je vous aime plus, ou je veux plus faire affaire avec Intact. J'imagine même que c'est le contraire, là. Mais cette peur-là est très présente dans l'industrie, là.
Oui, puis je pense qu'il faut pas mettre ce concern-là de côté. Mais comme je disais, tu sais, nous, quand on met quelque chose entre les mains d'utilisateurs, on reconnaît que c'est nos clients, on veut pas, puis on monte notre intervention de recherche dans cette optique-là aussi. Donc oui, on est transparent sur le fait que c'est une fonctionnalité qui est en test, par exemple. Ouais. On dérisque aussi, nous, en choisissant des fois, une plus petite base client. Il y a un groupe cible d'utilisateurs pour les pilotes, donc ce n'est pas nécessairement tous les clients qui font partie de nos interventions de recherche. Encore une fois, on bâtit tout de façon extrêmement sécuritaire, de façon à ce que l'expérience soit ultra stable. Fait qu'il n'y a pas de bug là, qui arrive n'importe quand dans nos prototypes non plus. Puis, l'autre chose que je vais mentionner, c'est qu'on a quand même un processus de design qui est le même que d'autres équipes de design. C'est-à-dire que, oui, on fait de la recherche. Oui, on fait un prototype, genre dans Figma, avant de faire notre prototype fonctionnel. On fait des tests utilisateurs parce que c'est ultra important de s'assurer que, non seulement que l'expérience est top-notch, mais aussi que si jamais le pilote... si jamais les résultats ne sont pas au rendez-vous, mais on veut être sûr que c'est pas une question d'usabilité, c'est vraiment une question de désirabilité si ça performe pas bien. Donc évidemment, tout ce qui est recherche utilisateur, test d'usabilité, ça fait partie du processus aussi.
Et ça, écoute, je t'entends parler, je me dis, ça remet beaucoup aussi en question la façon qu'on a de travailler les projets numériques, parce qu'on se rend compte qu'on peut faire quelque chose dans une période très petite, parce qu'on se donne des chances à l'erreur aussi en faisant ça. Inévitablement, on dérisque, mais on prend des risques pour être capable de prouver certains points en faisant ça, là.
Ouais, définitivement, là. Mais je pense que ça fait partie de cette culture-là d'innovation, justement.
Vraiment. Puis
je pense aussi qu'un des plus grands, apprentissages qu'on a fait dans la dernière année, c'est que pour retirer le plus d'impact et de valeur possible d'un prototype, il faut l'insérer dans un processus d'innovation end-to-end. Là,
oui.
Puis en fait, quand je parle de processus d'innovation, ça commence par être capable de rassembler toutes les idées qui sont partout, d'analyser ces idées-là, de comprendre c'est quoi leur impact potentiel, c'est quoi leur niveau de risque, pour qu'après ça, on soit capable de les prioriser. Puis c'est à partir de cette priorisation-là qu'on est capable de dire, OK, qui s'occupe de quoi? Qui investit quoi? Ouais. Des fois, c'est dans les équipes produit directement que ça peut se passer. Des fois, ça tombe dans notre cours à nous, l'équipe de prototypage rapide. Mais tu sais, tout le monde comme ça peut contribuer à investiguer ou rassembler de l'information sur ces idées-là qui semblent prometteuses, mais un peu incertaines. Puis, c'est ça qui fait avancer finalement dans notre espèce d'entonnoir de toutes les bonnes idées, mais dans lesquelles exactement on va investir dans les prochaines années.
Et dans cette optique de processus d'innovation, tu me disais en pré-entrevue que le lab numérique et le lab de données ont fusionné dernièrement. Ça a quoi comme impact positif? Vous avez l'air très, très enthousiaste à cette idée-là.
Oui. Ben, pour vrai, Jean-François, là, moi, je suis tellement excitée par cette fusion-là. Je trouve qu'il y a pas eu de meilleur moment pour travailler au lab, là. C'est vraiment super excitant parce qu'en fait, même nos leaders reconnaissent que l'intelligence artificielle et le numérique ont un futur en commun. Ça, c'est indéniable. Donc, c'est pour ça que Ben, depuis 2 mois maintenant, on a fusionné donc l'équipe de scientifiques de données, d'experts en AI qui vivaient du côté de Data Lab, puis tous les développeurs, designers, experts en produits qui vivaient du côté lab numérique. On est maintenant une seule et même grande équipe. Donc, ça crée évidemment des opportunités qu'on est encore en train d'identifier, de défricher, mais c'est sûr que ça soit pour les produits, que ça soit pour le prototypage rapide, le fait qu'on soit ensemble comme ça, ça ouvre énormément de... moi, ce que j'espère, c'est qu'on continue à faire des projets de ce genre-là. On en a quelques-uns dans notre liste de projets prometteurs, donc j'espère que l'année prochaine va amener ça aussi.
Léa, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue, c'était super intéressant.
Merci à toi, Jean-François, toujours un plaisir.